Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Vous l'avez entendu, générique de circonstance, puisque nous allons parler avec le grand rabbin Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn de Pessah. Bonjour, monsieur grand rabbin.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Magnifique.
On va parler donc de Pessah. Juste avant, je voulais juste dédier cette émission à un certain nombre de personnages qui nous ont quittés ces années précédentes. Je veux évidemment parler de Jonathan Sandler, de Arié et de Gabriel, ainsi que de Myriam Monsenego, qui ont été assassinés il y a de cela 9 ans maintenant à Toulouse. Et également, on voulait faire aussi dédier cette émission à Madame Muriel Knoll, qui elle aussi a été assassinée. C'est leur, on va dire, leur anniversaire de décès. On voulait en parler juste avant. Revenons à l'actualité de la semaine. C'est évidemment Pessah, monsieur grand rabbin. Juste avant, demain, ce sera Shabbat Agadol. Ça veut dire le grand Shabbat. Les autres Shabbats sont plus petits ?
Non, les autres Shabbats ne sont pas plus petits. Le Shabbat ayant précédé Pessah, on le sait, est un Shabbat particulier qui a été le théâtre d'un grand miracle. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Shabbat Agadol. Il y a bien sûr d'autres raisons. Je rappelle simplement que cette année, bien sûr, et on va en parler, la particularité est que Shabbat Agadol tombe veille de Pessah et que de ce fait, eh bien, nous avons fait un certain nombre de choses déjà Shabbat dernier, notamment la fameuse dracha de Shabbat Agadol qui a pour objectif de nous préparer à la fête de Pessah. Et donc, il était logique que cette dracha soit avancée au Shabbat précédent le Shabbat Agadol, de manière à ce que ces halakhot et ces sujets qui ont été abordés eh bien, puissent être intégrés et puissent servir pour les préparatifs de cette semaine. Un certain nombre également de rajouts que nous faisons à Shabbat Agadol dans la Tfila l'ont été Shabbat dernier. Pour autant, il y a une tradition Shabbat Agadol de lire une partie de la Haggadah. Et lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, eh bien certains malgré tout lisent cette Haggadah comme on le fait chaque année, d'autres s'en abstiennent, mais ce minhag pour beaucoup continue à être en vigueur et donc on lit une partie de la Haggadah du Maggid, et cela a d'ailleurs pour objectif de se préparer à la soirée du Seder en révisant en quelque sorte le texte que nous allons tous partager ensemble cette année, samedi soir et dimanche soir.
Alors juste pour information, il faut faire attention parce que beaucoup de synagogues, en raison de cette fête de Pessah, ont avancé leur tfila aux alentours de 7h ou 7h30. Donc faites attention si vous venez à la finir, ne pas venir aux heures habituelles.
On rappelle pourquoi, bien sûr, cette année, donc, la particularité de cette veille de Pessah qui tombe un Shabbat, entre autres particularités que nous soulignerons, est le fait que nous devons consommer absolument du pain pour la Seouda, nous devons faire Hamotzi, que ce soit vendredi soir ou Shabbat matin, mais qu'étant donné que nous sommes cette année veille de Pessah, eh bien il y a une interdiction de consommation du Hametz qui rentre en vigueur, et pour nous à Strasbourg, particulièrement tôt, à 9h36, et nous avons donc dû avancer l'heure de la Tfila, que vous pourrez consulter entre 6h30 et 7h, plus ou moins, en fonction des mini-anim, de manière à ce que nous finissions la Tfila suffisamment tôt pour pouvoir rentrer à la maison et consommer encore du Hametz, faire motzi sur du Hametz avant l'heure limite de consommation du Hametz, donc qui est, je le rappelle, pour Strasbourg, à 9h36.
Pour les horaires, ce soir, l'allumage des bougies entre 17h32 et 18h32, et prévoir une bougie qui durera 24 heures. On en parlera tout à l'heure. Alors, avant de commencer, quelle est la traduction littérale du mot Pessah ? Ça veut dire quoi, Pessah ?
Alors, Pessah, c'est le saut, c'est celui qui a sauté.
S-A-U-T.
Tout à fait, oui. C'est vrai, il faut préciser tout à fait le sceau S-A-U-T. Et comme on le précise d'ailleurs dans la Haggadah, lorsque nous dirons à la fin de la Haggadah ce passage extrêmement important, puisqu'on nous dit que celui qui n'a pas dit ces trois choses-là le soir de Pessah, ces trois mots, eh bien, ne s'est pas acquitté de son devoir. Ces trois mots qui sont Pessah, Matzah ou Maror. Nous dirons Pessah, Shehayu Avotenu Ochlim Bizman, Shevet Hamikdash Haya Kayem Al Shuma. Pourquoi est-ce que nous consommons le fameux Korban Pessah, en tout cas, ou plutôt le Korban Pessah que nos ancêtres consommaient au Bet Hamikdash, au temple Al Shuma? Sur quoi est-ce qu'il a été institué? Et le texte nous dira, la Mishnah, Al Shum, Shehayu Pessah, Hakadosh Baruch Hu, Al Bate, Avotenu Bemitzrayim. Et il a été institué tout simplement parce que Dieu a sauté au-dessus de la maison des Hébreux en Égypte. Et donc Pessah veut dire littéralement sauter. Et cela fait référence au miracle qui a eu lieu lors de la Makat Bechorot, de la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés. où, rappelons-le, eh bien, Dieu a littéralement sauté au-dessus des maisons des Hébreux qui ont été épargnés et n'ont pas vu leur premier-né périr. Rappelons qu'ils avaient bien sûr enduit les linteaux des maisons du sang de ce fameux Corban Pessah, de ce fameux sacrifice pascal. Et c'est donc par le mérite de ce sacrifice pascal qui a été apporté par l'ensemble du peuple que les premiers-nés hébreux ont été épargnés ce soir-là.
Alors, Pessah, je crois, a plusieurs noms. Quels sont-ils ? Il y en a beaucoup. Quelle est leur signification ?
Alors, il y a principalement quatre noms pour cette fête de Pessah. Certains en ajoutent un cinquième. J'aime bien parler de quatre noms parce que le chiffre 4 est très très important durant la fête de Pessah. Il est omniprésent le soir du Seder. Il y a bien sûr les quatre enfants, les quatre questions, les quatre coupes de vin. Enfin, on peut le décliner à l'infini. Les quatre mitzvot principales du soir du Seder qui sont la consommation de la matzah, la consommation du maror, des herbes amères, la consommation des quatre coupes de vin et le récit de la Haggadah. Donc un chiffre 4 qui est vraiment omniprésent le soir du Seder. Et donc le fait qu'il y ait quatre noms à cette fête de Pessah, eh bien, ajoute un petit peu à cette symbolique. Certains en ajoutent un cinquième, donc je vais vous décliner ces quatre noms. Donc bien sûr Pessah, comme nous avons l'habitude de manière très courante d'appeler cette fête, mais en réalité dans la Torah, elle est désignée sous une manière différente. On nous parle de Chag HaMatzot. On nous parle de la fête
des matzot.
Des matzot. On comprend aisément pourquoi est-ce que on qualifie Pessah par la fête des matzot, puisque la matzah, le pain azim, est par définition l'aliment phare de cette fête de Pessah, cet aliment qui symbolise à la fois les conditions extrêmement difficiles qui étaient les nôtres en Égypte, où nous nous nourrissions de la matzah, qui était un aliment qui reste longtemps dans le ventre et donc qui est long à digérer et qui permettait aux Égyptiens de faire des économies lorsqu'ils nourrissaient les Hébreux, mais en même temps, eh bien, qui est le symbole de la liberté. C'est cette dualité qui est très intéressante dans la matzah. Donc on comprend pourquoi est-ce que la fête est appelée Chag HaMatzot. Elle est également appelée Chag HaAviv, la fête du printemps, parce que Pessah tombe toujours au printemps. Et rappelons d'ailleurs que c'est parce que la Torah nous précise que Pessah doit toujours tomber au printemps que nous ajustons notre calendrier et qu'il est l'unisolaire, de manière à ce que les fêtes soient toujours bien en phase avec les saisons et que Pessah ne puisse jamais tomber en hiver. Et il y a là aussi une symbolique très très forte. Le printemps, c'est la nature qui commence de nouveau à s'éveiller. Ce sont les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui bourgeonnent, et c'est très très important de faire le parallèle entre le Klal Israël, le peuple juif qui justement a également bourgeonné au moment de la fête de Pessah, qui va petit à petit eh bien, se développer et redécouvrir son identité, et cette symbolique bien sûr du printemps et de la nature qui retrouve son éveil après une phase un petit peu difficile de léthargie qui est celle de l'hiver et qu'on pourrait comparer à ces 210 années que le peuple juif a passé en Égypte. Et enfin, le quatrième nom dont nous parlions tout à l'heure, qui est Chag HaCherut ou Zman Cheroutenu, la fête de la liberté, puisqu'on le sait, à Pessah, nous venons également scander la liberté et ce nouveau statut pour le clan Israël. Après avoir été esclaves de Pharaon, nous devenons des esclaves de Dieu, mais autrement dit, dans notre tradition, c'est-à-dire des hommes libres, justement, cadré par un véritable projet de vie, puisque c'est cela au fond être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est être cadré. Et permettez-moi simplement de rajouter le cinquième nom, donc j'ai dit qu'il y avait quatre noms, mais certains en rajoutent un cinquième, qui serait Chag HaGeoula, c'est-à-dire la fête de la délivrance. Voilà les différents noms de cette fête de Pessah qui ont donc chacun une symbolique tout à fait particulière et qui mettent l'accent sur une dimension importante de cette fête de Pessah.
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, finalement on dit que c'est la fête de la liberté, dès qu'on arrive à Pessah, on nous met un ordre, on nous met un céder. C'est pas antinomique d'être libre et après d'être recadré ou reordonné ?
Bien sûr, la question est excellente, puisque lorsqu'on parle de liberté, de prime abord, on s'imaginerait pouvoir faire absolument n'importe quoi. Et donc, par définition, a priori, l'accès à la liberté, la célébration de la liberté, eh bien, c'est faire ce que l'on veut. Donc, on aurait pu imaginer, effectivement, que célébrer la fête du Pessah, célébrer la fête de Pessah, eh bien, ce soit exactement l'opposé de ce que l'on nous demande de faire le soir du Seder. C'est le célébrer à sa manière, c'est que chacun puisse faire exactement ce soir-là ce qu'il veut, pour dire, voilà ma propre manière de me reconnaître au travers du sentiment... on va dire le plus noble qu'il puisse exister dans l'humanité, c'est ce sentiment de liberté. Eh bien, ce n'est pas comme ça que nous célébrons le Seder, parce que nos maîtres nous ont dit, nous allons t'apprendre ce que c'est que la liberté. Nous allons t'apprendre à être libre, et être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. Être libre, justement, ça s'apprend. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. On ne peut pas passer de la condition d'esclave, on ne peut pas passer d'une condition dans laquelle, et c'est ce qui s'est passé pour le clan Israël, eh bien, nous avions peur du lendemain, nous ne savions absolument, nous n'avions pas de projet de vie, à une situation dans laquelle, eh bien, du jour au lendemain, nous allons être un petit peu livrés à nous-mêmes. C'est quelque chose qui se construit, et c'est la raison pour laquelle ça se fait par étapes. Je parlais tout à l'heure du chiffre 4. Le chiffre 4, on l'a dit, ce sont les 4 coupes de vin, mais les 4 coupes de vin qui répondent en réalité aux 4 langages de délivrance qui sont rapportés au début de la parashat Vaïra, dans le livre de l'Exode. Et ces 4 langages de délivrance font en réalité référence à 4 étapes. Cette délivrance s'est faite en plusieurs étapes. Le peuple n'est pas sorti du jour au lendemain. Il y a eu une préparation, il y a eu des échéances, et ces échéances sont extrêmement importantes. Et ce qu'on veut nous enseigner au travers des différentes étapes du Seder, c'est que nous devons apprendre à construire cette liberté. Et nous la construisons justement au travers de différentes étapes qui sont progressives. On part du Kadesh, la sanctification, qui est un petit peu l'objectif, c'est le mot d'ordre de cette soirée. Tout ce que nous allons faire durant cette soirée doit être placé sous le signe du Kadesh, de la sanctification, d'essayer d'élever nos actions, et même les actions les plus matérielles, comme toutes les consommations que nous allons faire ce soir-là. Eh bien, il faut Kadesh, les sanctifier, pour arriver jusqu'au fameux chant du Nirtza, qui sont un petit peu une sorte d'apothéose dans cette soirée du Seder, après laquelle nous serons en mesure de pouvoir véritablement louer Akadosh Baruch Hu et le remercier pour l'accès qu'il nous donne à cette liberté.
Alors, à l'heure où l'émission est diffusée, on a fait déjà plusieurs choses ce matin, ce vendredi. Hier soir, on a cherché le Hametz. Ce matin, on l'a brûlé, en tout cas, pour certains, ils l'ont brûlé, d'autres ont fait différemment. Peut-être on pourra en parler. Alors, il faut être clair, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut rappeler. Tout d'abord, que demain, l'interdiction du Hametz à 9h36 pour la consommation. Et il faudra finir d'avoir du Hametz à 10h50 avec la bracha Kol Chamira.
C'est pas une bracha, c'est une formule que nous récitons en araméen. Mais c'est très important de le rappeler, surtout dans la langue que nous comprenons. Donc si quelqu'un ne comprend pas l'araméen, il faudra qu'il dise cette phrase en français dans laquelle il va annuler le Hametz. C'est extrêmement important et c'est toute la différence cette année. Nous ne récitons pas ce fameux Kol Chamira le vendredi après avoir brûlé le Hametz, car nous allons posséder du Hametz. Ce Hametz que nous allons encore consommer, notamment pour faire motzi vendredi soir et Shabbat matin. Et donc, il n'est pas question d'annuler le Hametz vendredi matin. Simplement, on le brûle à l'heure habituelle pour ne pas faire de différence avec les années précédentes. C'est la raison pour laquelle on ne brûle pas le Hametz vendredi plus tard, même si nous pouvons encore le posséder jusqu'à Shabbat matin. Mais nous ne réciterons la formule du Kol Chamira que vendredi matin. Samedi matin. La première formule est récitée jeudi soir à l'issue de la Bédikat Hametz, de la recherche du Hametz. La seconde formule sera récitée samedi matin, on l'a dit, à 10h50, juste avant donc l'heure de l'interdiction de possession du Hametz.
Donc 9h36, il faut arrêter de manger du Hametz, 10h50. Au plus tard, il faut l'avoir jeté et
tout
avoir...
Tout à fait, s'en être débarrassé de plusieurs manières, on l'a dit. Il faut déjà faire en sorte d'avoir le moins de Hametz possible. On s'en sera vraiment débarrassé totalement avant Shabbat. Ne garder pour Shabbat que ce dont nous avons besoin pour faire motzi, dans la mesure du possible, ces petits pains, les consommer entièrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de grandes halotes ou de grandes pitotes, mais vraiment le strict nécessaire pour les repas de vendredi soir et de Shabbat matin.
On parle des pitotes,
tout à fait. Et on se débarrassera des quelques miettes qui restent, si possible, en les jetant aux toilettes, par exemple. Et si il y a encore un petit peu de Hametz, on le jette à la poubelle et on le rend impropre à la consommation, par exemple en versant dessus de l'eau de Javel, de manière à ce que même si nous avons la possibilité de nous séparer des poubelles et de descendre les poubelles, étant donné que dans la plupart du cas, ces poubelles ne seront bien sûr pas évacuées dans le domaine public avant la fin de l'interdiction, notamment à Strasbourg, on sait, où les éboueurs ne passent qu'une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi, le fait de l'avoir rendu impropre à la consommation permet de régler vraiment définitivement le problème de la possession du Hametz, même si ces poubelles restent encore dans notre domaine.
On peut le mettre dehors, dans les poubelles de dehors, ou c'est compliqué?
Alors, je rappelle aussi un grand principe de Chil Hashem, je ne rentre pas maintenant dans le fait que nous ayons un hérouve ici, que nous puissions en porter. Les poubelles, on sait que c'est une problématique de Moukhtse, mais que les poubelles ont un statut particulier lorsqu'elles dérangent ou que c'est quelque chose de dégoûtant dont l'odeur dérange, eh bien on peut bien sûr s'en débarrasser et les évacuer pour parer justement à cette problématique. Du coup, tu sais, respectons bien sûr la ville dans laquelle nous nous trouvons. Il y a aussi une problématique de Khilul Hashem à éviter. Donc ces poubelles, j'ai donné la solution véritablement pour être en règle par rapport à la possession du Hametz. On met de la Javel et au mieux on les descend dans son local à poubelle et c'est pas la peine de faire traîner des déchets sur le domaine public, ce serait extrêmement mal vu et d'ailleurs c'est valable pour toutes les années, pas uniquement pour cette année.
Pourquoi on fait le céder uniquement la nuit? On pourrait le faire à midi ou le matin quand tout le monde est bien réveillé?
Bien, nous avons une obligation de consommer de la matzah le 15 au soir. La nuit, on ne peut pas consommer de la matzah avant et c'est la raison pour laquelle on commence le céder uniquement à la nuit. Il faut que le récit de la sortie d'Égypte, le baguide et également la consommation de la matzah se fasse la nuit.
Chez matzah ou maror,
munachim lefanecha, c'est à ce moment-là que l'on consomme, que l'on raconte la sortie d'Égypte et que l'on consomme la matzah parce que nous célébrons quelque chose qui est intervenu à cette date. Cette date n'est pas une date qui est liée au hasard. La date du 15 Nissan, on pourrait donner beaucoup de raisons pour lesquelles les choses se passent le 15 Nissan. On sait que le mois de Nissan est le mois qui est placé sous le signe du bélier. Le bélier, ça fait référence à ce qui était l'idole par excellence en Égypte. Et nous sommes un soir de pleine lune, c'est-à-dire le soir où justement ce signe zodiacal justement du mois de Nissan est le plus fort. Le moment où la lune est à son paroxysme, où elle est pleine, où elle est puissante. Et donc le fait que la soirée de Pessah se déroule en cette date symbolique du 15 Nissan est en quelque sorte un pied de nez fait à tout ce que les Égyptiens ont voulu nous imposer, ont voulu nous inculquer. Et donc nous célébrons cette fête de Pessah, bien sûr, au moment où les événements ont eu lieu, ni avant ni après.
Alors on va y revenir concrètement dans un instant, mais je voudrais quand même être sûr pour que les gens savent quand même les horaires et tout ça. Donc la fête débutera demain soir à la clôture du Shabbat à partir de 19h36.
Tout à fait.
D'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Pour les bougies d'Avdala, il faut allumer ces bougies déjà avec une flamme existante.
Alors, je rappelle, donc le céder du soir, le céder de Avdala, la manière dont nous allons procéder à l'Avdala, vous la retrouverez dans vos Haggadot. Bien sûr, vous ferez attention à réciter toute la partie qui concerne le Motsei Shabbat, selon le fameux céder qu'on appelle Yaknahaz, Yayin, Kiddush, Ner, Avdala, Zman. Donc, on commence par la bracha de Boré Peria Geffen, puis la bracha du Kiddush, que nous aurions récité aussi un soir normal, puis nous ferons la bracha de Ner sur la bougie, puis la bracha de la Havdala, bien sûr pas de Bessamim ce soir-là, et on terminera par la bracha de Sheikhianou. Pour la Havdala, il existe aujourd'hui des petites bougies très pratiques, soit sous forme de chauffe-plat ou bien sous forme de bougies classiques, qui ont deux mèches, qui sont des petites bougies de Havdala et qui sont faites spécialement pour ce cas de figure, ou que nous allumerons à partir de notre bougie de 48 heures ou 72 heures, que nous avons soigneusement allumé avant Shabbat, de manière à pouvoir allumer le premier soir et le deuxième soir de Yom Tov. Et donc, bien sûr, pas question d'allumer avec son briquet, surtout pas, mais à partir d'une flamme déjà existante. Si nous ne possédons pas ce type de bougie, eh bien, il est possible de réciter la Havdala sur justement cette lumière, cette bougie de 48 heures ou de 72 heures que nous avons laissé allumer depuis vendredi.
Les bougies d'Havdala normales, ça ne marche pas?
Alors j'ai dit, vous pouvez allumer votre bougie d'Avdala normale si vous le voulez. Le seul problème, c'est que les bougies dont je vous parlais spéciales sont des petites bougies qui vont s'éteindre et qui permettent de ne pas brûler trop longtemps. Parce que rappelons que nous sommes Yom Tov et que nous ne pouvons pas éteindre la bougie d'Avdala après l'avoir allumée. Donc si vous utilisez une grande bougie de Avdala classique, il faudra la laisser après brûler jusqu'à la fin. C'est pas très safe, comme on dit, et ce n'est pas non plus forcément l'idéal. Donc, je l'ai dit, ou bien utiliser ces bougies qui sont spécialement aujourd'hui faites à cet usage, ou bien, si on n'a pas ce genre de bougie, eh bien, tout simplement rester la bracha de la Havdala, du nerf, de la bougie, sur la bougie de 48 heures ou 72 heures que nous avons allumée avant Shabbat.
Alors, attention, tout de même, cette année, il y a le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On avance nos montres, c'est-à-dire qu'à 2h, il sera 3h.
Et on avance nos montres, rappelons-le, c'est ce qui doit nous rendre particulièrement attentifs, c'est que nous ne pourrons pas régler nos montres pendant la fête de Pessah, ce qui veut dire que nous allons passer deux jours de Pessah, dimanche et lundi, avec des montres qui indiqueront une heure de moins. Et donc faites attention, parce que vous risquez d'arriver sinon une heure en retard à la tefila.
Ce serait dommage.
Voilà, ce serait dommage. Et donc c'est vraiment à ça qu'il faudra nous rendre attentifs. Et également, je le dis, Jean, c'est important, pensez à régler vos minuteries également en conséquence. que on ne pourra pas ajuster ces réglages. Et donc, il vaut mieux vraiment prévoir une plage beaucoup plus large qui prend en compte le changement d'horaire et faire tout ça avant Shabbat.
Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de rajouter.
Alors, c'est compliqué. C'est qu'ils n'ont pas des minuteries électroniques. Voilà, je ne veux pas que les gens s'embrouillent en faisant des différences des minuteries électroniques et des minuteries manuelles.
D'accord. Alors, donc, on avance nos montres d'une heure. Et le deuxième CDR sera à partir de 20h38 dimanche soir. Vous referez chez Rianou. C'est comme ça. Et puis, vous compterez le premier soir du Homer.
Tout à fait.
À ne pas oublier, mais en général, c'est dans également les Haggadot imprimées. On a tout dit.
Alors, pas toujours. C'est pour ça que vous avez raison de préciser que c'est important de réciter, de ne pas oublier de compter le premier soir du Homer. Ça serait vraiment dommage de rater le premier soir. Et ce n'est pas systématiquement imprimé dans les Haggadot. Certains, notamment, je pense que c'était le Minag en Alsace. On le retrouve souvent sur des Haggadot alsaciennes. Le Minag, même de réciter le Homer à un moment bien précis du Seder, vers la fin du Seder, après le Hallel, entre le Hallel et le Nirtza, tout à fait, exactement. Mais d'autres ont l'habitude de le réciter à la fin de l'office d'Arvit, donc avant même de commencer le Seder. Et donc il faudra être attentif à ça parce que le conte du Homer ne figure absolument pas dans toutes les Haggadot.
Bon, si vous ne l'avez pas, vous retrouvez ça dans une fila normale. Il y a une différence de cérémonial entre le premier et le deuxième Seder. Ou c'est pareil?
Alors, ce sont deux sdarim qui sont absolument identiques dans la manière de procéder, exactement les mêmes règles, tout simplement parce que le deuxième seder, par définition, est calqué sur le premier seder. C'est un copier-coller, en réalité, du premier seder, de la même manière que pour les autres fêtes. Lorsque nous faisons kiddush le deuxième soir de Yom Tov, eh bien, nous récitons exactement le même kiddush. C'est toujours un copier-coller du kiddush qui a été récité la veille et que nous faisons, comme nous le savons, pour ces histoires de doutes qui existaient à l'époque encore où nous célébrions le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois par le témoignage de deux témoins et que certaines contrées lointaines n'avaient pas encore l'information au moment où la fête arrivait. Donc dans le doute, eh bien, on célébrait également un deuxième jour de fête. Parce que, vous le savez, les mois ont 29 ou 30 jours et donc il pouvait y avoir un décalage d'une journée. En pratique, très souvent, je trouve que ce deuxième CDR, même si beaucoup rêveraient que nous puissions enfin abolir ce deuxième soir de fête, parce que c'est fatigant de faire deux soirs de CDR.
On le fait une fois en Israël, il y a un CDR.
Tout à fait, en Eretz Israël, nous ne faisons qu'un CDR, nous ne célébrons qu'un CDR. Mais je trouve, et ça c'est une réflexion personnelle, que de manière pratique, nous arrivons souvent épuisés le premier soir du CDR, ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne chose. Bien sûr, j'invite tout le monde à essayer d'anticiper, de faire en sorte que le premier soir du CDR, nous puissions être en forme, en ayant fait une petite sieste. Exactement, cette année, c'est particulier, c'est Shabbat et c'est compliqué en même temps au niveau de l'organisation, mais par ailleurs ça a l'avantage de faire que nous arriverons plus en forme le premier soir du Seder, mais les autres années, je trouve qu'en principe nous sommes beaucoup plus en forme le deuxième soir du Seder, ce qui fait qu'on est en principe plus en mesure d'approfondir le soir du Seder. En tout cas, un petit conseil que je vous donne, ne mettez pas toutes vos forces dans le premier Seder, dans le sens où il est bon de garder encore des discussions pour le deuxième Seder.
Donc garder des questions pour le lendemain.
Tout à fait, pour ne pas le bâcler. La soirée est suffisamment intense pour ne pas poser toutes les questions le premier soir. Essayez de trouver un équilibre entre le premier, le deuxième soir. Ouais. Et ça permet vraiment de rendre la soirée du deuxième soir du Seder attractive et de ne pas la bâcler rapidement.
D'autant plus, je crois qu'il y a un horaire... limite, le soir du premier seder, on doit manger, je crois...
Tout à fait, jusqu'à Khatzot, qui est différent, là aussi, d'une heure, minuit et demi, me semble, le premier soir, et 1h30, mais vous consulterez les calendriers, et bien sûr, qui est différent, puisque nous passerons à l'heure d'été, entre le premier et le deuxième seder, donc un horaire, bien sûr, impératif, avant lequel nous devons manger la ficomane, puisque la ficomane vient en souvenir du sacrifice pascal, du Corban Pessah, qui lui-même devait impérativement être consommé avant Khatzot, qui est le milieu de la nuit, bien sûr avec en heure solaire et non pas le minuit que nous connaissons sur nos montres.
Alors on demande souvent quand on va au shiurim des rabbanim, ils me disent il faut faire comme si on était la sortie d'Égypte. Alors on est en 2018, on a plein de choses autour connectées. Comment on peut se retourner à l'époque du Mont Sinaï?
C'est le leitmotiv du soir du Seder. Chayav Adam Nirot et Asmo, Ilou Yatsa Mimitzraim, qu'un homme a l'obligation, c'est une Mishnah qui l'exprime dans le traité de Psachim, qu'un homme a l'obligation, le soir du Seder, Lirot et Atzmo, de se voir comme s'il était, ou de se montrer, d'après le langage du Rambam, de Maïmonide, comme s'il était sorti d'Égypte.
Alors, bien sûr. On est bien habillé, on est en costume, un bon repas. On est assis par terre, enfin, sur une belle table.
Le CDR est une expérience. Le CDR est à prendre comme une expérience. Et je l'ai dit, j'ai beaucoup insisté là-dessus pour que le CDR de cette année ne ressemble pas à celui des années précédentes. Chaque CDR est une nouvelle expérience. Chaque CDR est l'occasion de redécouvrir notre identité. Il est l'occasion de repartager des questions fondamentales, de poser de nouvelles questions, d'en apprendre plus sur nous-mêmes et de ressortir totalement différent, bouleversé par l'expérience que nous avons vécue. Eh bien, c'est ça, Chaya Vadam Lirot et Tatsmo, c'est de comprendre que nous ne sommes pas uniquement dans une commémoration le soir du CDR, où on rappelle un événement, parce que c'est très très à la mode dans notre société de commémorer des événements. Nous ne sommes pas dans la commémoration, mais nous sommes, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, il me semble, à cette antenne, systématiquement dans l'expérience. Nous revivons une expérience comme si nous l'avions vécue, parce que cette histoire de Pessah, eh bien, c'est la nôtre. L'histoire qu'ont vécu nos ancêtres, c'est la nôtre. Nous avons vécu la même histoire. Nous vivons la même histoire quasiment au quotidien, surtout nous qui sommes engoncés dans cette galoute, dans cet exil. Et c'est donc en se réappropriant cette histoire le soir du CEDER, avec un plan qui est extrêmement clair, Matril Bignay ou Mesayem Bishvar, en commençant par raconter des choses qui ne font pas forcément plaisir, mais qui sont une réalité de notre histoire et de notre existence. Or, nous prenons l'histoire telle qu'elle est, nous n'essayons pas de la falsifier ou de la réinventer, mais se l'approprier, au contraire, c'est la prendre telle qu'elle est et voir le chemin parcouru. Et progressivement, eh bien, se détacher de ce Gnay, de cette époque pas forcément reluisante, de notre histoire, et de progressivement eh bien, comprendre ce qui nous a permis de sortir de cette situation pour enfin avoir un véritable projet de vie. Eh bien, c'est quelque chose, en réalité, que nous pouvons revivre chaque année, dont nous ne nous lassons jamais, et qui se réapprend, qui se revit, alors, qui se décline à l'infini.
Je voudrais vous demander, au niveau casse-route, un peu comme ça, est-ce que dans les produits qu'on va acheter, il faut absolument que le mot kasher, les Pessah, soit inscrit, ou s'il est marqué uniquement kasher, par exemple pour des produits qui sont de l'huile ou du vinaigre, ça marche?
Bien sûr, à Pessah. Alors, c'est une question, c'est un peu, malheureusement, un peu tard pour aborder cette question, parce qu'au moment où on nous écoute, les gens ont déjà fait toutes leurs courses. Bien évidemment, à Pessah, nous montrons particulièrement vigilants. Nous savons que l'interdiction du Hametz est un interdit particulièrement grave, puisque la peine encourue est la peine de karet, la peine de retranchement. Et nous savons aussi que la particularité du Hametz, c'est qu'il ne s'annule pas, même pas dans 1000 fois durant la fête de Pessah, même pas dans 1000 fois sa quantité. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique parmi les interdits alimentaires. Et en réalité, ce n'est pas pour rien que nous sommes si vigilants durant la fête de Pessah. Bien sûr, la symbolique du Hametz que nous connaissons, de ce qu'il représente, cette pâte qui gonfle, qui représente l'orgueil, chose que nous devons absolument fuir, mais également parce que, en réalité, eh bien, tout passe par la bouche le soir de Pessah. Nous avons à la fois les mitzvot qui se font par la parole, le récit notamment de la Haggadah de Pessah, le Birkat Hamazon, le Kiddush que nous allons réciter, mais également les choses que nous consommons. À Pessah, eh bien, la soirée du CEDER tourne autour de la consommation d'aliments, de la consommation de certains aliments symboliques, la matzah, le maror, le charoset, le karpas, etc. Et donc ce qui rentre dans notre bouche, bien sûr, est aussi important que ce qui en sort, mais en tout cas, a une symbolique particulière le soir de Pessah. Et durant toute la fête de Pessah, on fait très attention à ce qui rentre à l'intérieur de la bouche, de la même manière qu'on fait attention, bien sûr, à ce qui en sort. Et donc, bien sûr, en ce qui concerne les produits, nous n'achetons que des produits kasher les Pessah. Bien sûr, pour plus de détails, c'est pas malheureusement maintenant le moment de discuter. J'invite les gens à me consulter personnellement ou à consulter leur rabbin pour poser des questions sur certains produits courants, ou bien sûr à consulter les listes qui existent et qui sont à leur disposition. Nous n'avons maintenant pas le temps de faire une émission de kasheroute sur Pessah.
Alors, pour terminer, une dernière question avant de vous entendre pour faire vos vœux à la communauté. Quels sont les textes qu'on lit pendant Pessah? On lit quel texte pour les premiers et deuxièmes jours au Sefer Torah?
Alors, la lecture de Pessah, le premier matin, se situe dans le livre de Shemot, Parashat Bo, et c'est tout simplement la continuité de la lecture de Parashat Achodesh, que nous avons lu très récemment, et qui traite tout simplement de la sortie d'Égypte, et donc de tout ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, et notamment de la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Le lendemain, nous lirons un passage bien connu dans la Parashat Emor, qui est également un passage que nous lisons au début de la fête de Soukhot.
Alors, Monsieur Grand Rabbin, les fêtes de Pessah sont les fêtes les plus importantes du calendrier. Quel est le message que vous voulez délivrer aux auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg et au-delà à toute la communauté?
Je ne vais pas être très original, Jean, mais je crois que ces fêtes de Pessah sont toujours un moment d'espoir. Elles le sont d'autant plus cette année. Ce Pessah nous rappelle des moments très difficiles que nous avons vécus l'année dernière. Je veux bien sûr penser aux personnes qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, de pouvoir survivre à ce Covid et qui nous ont quittés juste avant Pessah ou juste après Pessah. J'ai vraiment une pensée très, très émue pour leur famille, pour leurs familles proches. Mais en même temps, nous le savons, un grand nombre de nos coreligionnaires qui étaient vraiment en posture très fâcheuse durant les fêtes de Pessah ont eu la chance de connaître un véritable miracle, de pouvoir rentrer chez eux en bonne santé, et ils pourront cette année célébrer un Pessah tout à fait digne et serein avec leur famille. Et je crois que ça doit nous donner vraiment beaucoup d'espoir. Ce Pessah ne sera peut-être pas le Pessah rêvé, on sera peut-être un petit peu moins nombreux le soir du Seder, mais je crois que pour autant, eh bien, c'est un véritable signe d'espoir. On est quand même dans des conditions qui ne ressemble pas tout à fait à celle de l'année dernière. Et nous avons l'espoir que l'année prochaine, nous pourrons passer à un Pessah tout à fait normal. En tout cas, dès cette année, cela ne doit absolument pas nous empêcher de réfléchir, d'échanger. D'ailleurs, je rappelle que l'année dernière, où les conditions étaient très, très particulières, beaucoup m'ont dit qu'ils ont passé à une soirée de Seder tout à fait exceptionnelle, où cette proximité avec les enfants, le fait qu'il y ait un échange vraiment privilégié sans que nous n'ayons à nous partager entre les différents invités, eh bien, a permis d'avoir une soirée d'une très très grande qualité au niveau de l'échange. Et c'est vraiment ce que j'invite tout le monde à faire, à privilégier cet échange avec son épouse, avec ses enfants, et à les intéresser le soir du Seder et à faire en sorte que cette expérience soit une expérience inoubliable. C'est ça le Seder, c'est un moment qui doit rester un moment inoubliable, et on doit avoir envie, dès qu'on a quitté la soirée du Seder, eh bien, tout de suite de se projeter dans la soirée du Seder de l'année prochaine.
Rav Zmerla, qui était notre invité mercredi, disait en préambule de l'émission « Prudence ». Vous êtes d'accord avec lui ?
Prudence, bien sûr. Pas se relâcher, rester prudent, mais ça, c'est un leitmotiv, on le répète chaque semaine. Et bien sûr, au-delà de la prudence, vraiment, surtout ne pas sombrer dans une certaine forme de monotonie, mais au contraire, profiter de ces fêtes de Pessah pour remettre un petit peu de joie au centre de nos foyers et se reconcentrer sur l'essentiel.
Merci à vous, monsieur le rabbin Avraham Harolweg, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Comme on dit chez nous, Kutium Tov, hein, c'est bonne fête, hein, Good Shabbos. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Et il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours. Merci à vous pour votre fidélité. Bon Shabbat et bonne fête de Pessah. Et restez prudents. I'm